France Inter.
Bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit une artiste qu'on a vue grandir, s'affirmer et livrer un dernier album viscéral, presque vital, Mon Sang, son dernier disque sorti il y a un peu plus d'un an, qui continue de vivre sur scène. Clara Luciani est avec nous ce soir, parce que Clara est en pleine tournée, une tournée qui sonne comme une déclaration d'amour au public. Bruxelles, puis Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille, avant de finir en apothéose à l'Accor Arena les 18 et 19 février. Deux dates qui s'annoncent déjà comme un moment charnière dans son parcours. Et comme ça ne suffit pas, on la retrouve aussi à la radio, chez nous, sur France Inter. Pendant les fêtes, Clara se glisse dans les matinées de France Inter avec Clara Luciani, Enco, une carte blanche. Chaque jour, des reprises en duo avec Valérie Lemercier, SCH, Louis Garrel, Pomme ou encore Yoa. Un rendez-vous qui promet des rencontres improbables et réjouissante. Alors aujourd'hui, on la reçoit pour parler de tout ça, de la scène, de la famille, de ses collaborations qui disent beaucoup d'elle et de cette manière unique qu'elle a de faire cohabiter mélancolie et éclat. Clara est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Clara.
Bonsoir Mehdi.
Comment ça va ?
Très très bien.
Ouais.
Et toi ?
Avec ben, moi très bien. Très bien, super. Je suis contente de te recevoir. Mais je me dis... Comment tu gères tout ça, là? Tout ce que je viens de dire. Bon, l'album commence un peu à dater, mais bon, c'est pas si vieux que ça, mine de rien. La tournée, la radio, il y a sûrement d'autres projets. Comment t'arrives à jongler avec tout ça?
En fait, moi, j'ai l'impression que plus j'ai de choses à gérer, au plus je gère bien. Ce qui me fait peur, moi, c'est le vide. Okay. Donc, en fait, si je suis occupée, tout va bien. Plus je suis occupée, plus je... ça va. Je suis dans ma zone de confort.
T'as
moi,
peur
c'est au contraire
de...
la fin de la tournée. Là, tout à l'heure, tu disais, ah voilà, qui va s'achever avec les Bercy en février. Ça, par contre, il y a moyen que je...
Que tu le vives mal.
Que je devienne un peu zinzin. Ouais.
Ah ouais?
Ouais.
T'as besoin d'être en constante agitation?
Oui, c'est mon secret pour être heureuse. C'est d'être tout le temps occupée, entourée. Alors, je sais pas si c'est très sain, mais on a tous notre façon, j'imagine, de gérer notre vie, nos angoisses, etc. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas tellement me retrouver... Enfin, ma sœur me dit, par exemple, que je sais pas prendre de vacances, que je sais pas m'asseoir sur un canapé. C'est vrai.
C'est-à-dire physiquement, tu ne sais pas t'asseoir sur...
Bah là, tu vois, oui, mais il faut que je fasse quelque chose.
J'ai compris. Mais alors, comment ça se passe, du coup, une période entre deux albums? Cette période, tu sais, parfois de vide, où j'imagine aussi, il faut trouver l'inspiration. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, qui est douloureux pour toi?
C'est pas douloureux parce que je me mets aussi dans un espèce de truc presque d'entraînement sportif, où je me dis, ok... même si je fais rien de productif, ou même si je sais que je vais faire des trucs pas hyper qualitatifs, je me force à jouer un peu tous les matins, de la guitare.
Okay.
Je lis beaucoup, je vais beaucoup voir des expositions, des films, parce que je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, c'était ma matière première, qu'il fallait que je nourrisse vraiment mon esprit pour espérer en écrire, quoi.
Alors, je le disais, ton dernier album, Mon Sang, est sorti il y a un peu plus d'un an. Un album qui a rencontré le succès. On peut le dire, ça s'est très bien passé. Et parfois, le troisième album, enfin, il y a toujours quelque chose de compliqué quand on a un premier album qui marche très fort, qu'on arrive à remettre ça sur le deuxième album. Parfois, c'est compliqué vraiment de réussir à enchaîner trois albums comme ça. Qu'est-ce qui représente ce disque avec un an d'expérience comme ça? Quel recul tu as un petit peu dessus? Et même sur le fait de finalement de réussir à maintenir ce, déjà de sortir des albums, d'être encore là, mais aussi de continuer à trouver ton public. Est-ce que finalement, comment tu lis un petit peu ça?
Je sais pas trop, mais en tout cas, ce que représente cet album, je crois que je le trouve, avec un petit peu de recul, assez courageux. Déjà parce qu'il est complètement, plus que les autres encore, exhibitionniste.
Ouais.
Et puis surtout...
Tu veux dire dans les propos, notamment, dans
les
ce que
propos,
tu racontes
ouais. Moi, parler de ma mère, parler de ma famille, m'adresser à cet enfant que je connaissais pas et qui grandissait en moi, partager à ce point-là mon expérience de la grossesse que je vivais pour la première fois... Il y a quelque chose d'extrêmement impudique, exhibitionniste. Ouais. Donc je trouve ça assez courageux et de l'avoir fait de cette façon-là en plus à un moment où je sais pas. Enfin moi je quittais le public sur un truc hyper disco, hyper pailleté et je pense que les gens s'attendaient peut-être à une espèce de version 2.1 de ce personnage que j'avais créé qui était
et qui marchait
et qui
plus,
marchait en plus. Et en fait je trouve ça chouette que je me sois pas forcée à ça et que j'ai accueilli en fait cet album. Comme il me venait, c'est-à-dire dans une forme beaucoup plus épurée et j'ai accueilli les sujets aussi qui s'imposaient à moi, qui ne me seraient pas parvenue, je pense, si j'étais pas dans ce moment-là de ma vie de femme. Et je suis contente. Je suis contente qu'il existe sous cette forme-là. Et je crois que ce sera pour toujours un album assez spécial pour moi. Parce que vraiment, je me revois. Donc je le disais, je l'ai fait quand j'étais enceinte. Et je me revois vraiment marcher tous les jours pour aller au studio. Et chaque jour, je marchais et mon ventre s'arrondissait et mon disque grandissait aussi en moi. Et ce sera pour toujours 9 mois super particuliers d'avoir couvé deux créatures comme ça en parallèle.
Oui,
quoi.
Du coup, c'est comme si cet album-là sera toujours un petit peu aussi associé à ton enfant.
Totalement.
Quelque part, en fait, tu peux pas le décorer l'un de l'autre.
Ouais, c'est ça. Et puis une introspection très profonde. Vraiment très profonde. Moi, pour écrire Mon Sang, la chanson Mon Sang, c'est moi qui pars chez mes parents et qui dis « Ok, maman, allons voir les... » Enfin, montre-moi ce qu'il y a dans le grenier. En gros, montre-moi toutes les photos de famille. Puis je me suis vraiment... Je sais pas, je me suis cherchée. Je me suis vraiment... C'était une vraie quête identitaire. C'est ça qu'on entend dans ce disque, je crois.
Comment les gens autour de toi ont réagi quand t'as une formule qui marche bien, effectivement, le côté disco pailleté dont tu as parlé, et puis que toi, tu décides d'aller sur autre chose. Est-ce que, pour ton entourage, ou même au sein du label, ou de même personnes, musiciens qui travaillent avec toi, il y a pu avoir des réticences ou de la peur de se dire, est-ce que t'es sûr, finalement? Est-ce qu'il faut vraiment changer ce qui t'a amené aussi là où tu es aujourd'hui?
Ben moi, ce que j'ai aimé, c'est que je me suis sentie absolument, autorisée et encouragée à faire ce que j'avais envie de faire.
Ouais. Okay.
Et c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir des réticences, notamment du label, etc. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Je crois que tout le monde a compris à quel point c'était important pour moi de le faire et de le faire comme ça.
Ouais.
Et j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là.
Oui, c'est-à-dire que t'as pas senti du tout de « on a peur, attention, ça va s'arrêter ». Parce que ça va tellement vite, tu sais, il y a même parfois
bien sûr, mais je crois que c'est important aussi. Moi, j'ai toujours dit que les carrières que j'admirais le plus, c'était aussi... comment expliquer ça? Je sais pas, par exemple, moi, je suis très attirée par des personnages comme David Bowie ou Madonna, parce que à chaque fois qu'ils sortent un disque, on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire.
Il y a des partis pris dans leur carrière.
Mais tu sais, à chaque fois, il y avait un peu une nouvelle ère, quoi.
Ouais, genre, tout à fait.
Et je me compare pas du tout à David Bowie ou Madonna, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire.
Non, mais c'est des inspirations, en fait.
Mais c'est mes inspirations, en tout cas, dans leur façon de créer, dans le sens où je pense que j'ai certaines ADN, peut-être qui reposent sur, je sais pas, ma voix ou mon écriture. Mais tout le reste, je le pense et je l'espère interchangeable. Un peu comme des vêtements, finalement. Je me dis, j'aime bien, aujourd'hui, je suis en jean, demain, je peux mettre un tailleur, après, demain, je peux mettre une mini-jupe.
Oui.
Pour moi,
pas toujours le même costume.
Ouais,
en fait.
C'est ça. Et c'était important pour moi de proposer un disque qui était différent, et le quatrième sera différent encore, et j'ai aucune idée de ce que ça sera, et peut-être qu'un jour je referai un album disco, et peut-être, mais finalement c'est de l'habillage, quoi. Le reste, le tronc commun, il est toujours là.
C'est ce que tu racontes,
ma façon d'écrire et de chanter, je crois.
Alors, dans cette actualité foisonnante, il y a eu une collaboration aussi récemment, sur l'album du GP Explorer. Donc c'était cet album pour l'événement créé par Squeezie et piloté par le SCH, qui était là d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça dans cette émission. Comment ça s'est passé, la collaboration? C'est un morceau aussi où il y a Yamé, bien sûr, Sofiane Pamart, qu'on va écouter juste après, d'ailleurs, qu'on joue régulièrement ici. Comment s'est passée cette collaboration-là? Pour le coup, on parlait de collaboration improbable, si ça va être le cas dans ton émission. Là, c'en est une, en tout cas, sur le papier. C'est pas forcément quelque chose, même si t'es un peu familière de ça, quelque part, finalement. Ouais. Mais comment ça s'est fait, tout ça?
C'est marrant que tu dis ça, parce que je me suis retrouvée sur un plateau télé, en direct, à dire « Cette collaboration sur le papier, c'était un peu une pizza hawaïenne ». J'ai vraiment dit ça, c'est le truc de genre le mélange, j'étais là genre « Qu'est-ce que c'est que ces ananas ?» Bah, c'est pas là l'idée du siècle, quoi.
Merci. Je comprends pas ce projet, moi.
Nous, on pouvait, dans l'idée, être une pizza hawaïenne, mais on était on a été une recette qui a trop bien marché, parce que... déjà, je crois que ça a été une vraie rencontre humaine. C'était génial, ce moment où je suis arrivée dans le studio. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin, tu vois, les gens, tu les suis un peu sur les réseaux,
mais
tu les connais pas, tu sais pas comment ils vont être dans la vraie vie. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment avec deux mecs incroyables et trop sympas. Et SCH est arrivé, il a fait des cocktails pour tout le monde. Enfin, je sais pas, j'étais là, mais je veux être votre meilleur ami pour la vie.
J'ai envie
fait.
De traîner avec
je
vous.
Je veux être votre sœur, genre vraiment. Et c'était trop bien, parce que moi, je peux être facilement très intimidée. Et puis, j'avais jamais fait ça. C'est plus quelque chose, peut-être, qui se fait dans le rap de...
Oui.
Te mettre autour d'une table et dire ok, on fait un son en direct tous ensemble. Dans la chanson, beaucoup moins.
Ouais.
Et du coup, cet exercice me terrorise un peu. Je sais, mais moi, je vais pas savoir faire et tout. Et en fait, ça s'est fait super simplement, mais Je pense que ça a existé, ça a pu exister parce que les trois étaient trop cool et, ouais. et m'ont trop encouragé. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment resté en contact et que, enfin, moi, j'ose espérer que
ça pourra.
Avec les autres, on continuera à travailler ensemble parce que je trouve ça trop enrichissant. Et puis, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus intéressant de travailler avec des gens avec qui tu partages pas forcément exactement les mêmes références et les mêmes goûts, parce que c'est là que, je sais pas, c'est enrichissant de créer des passerelles, de, des trucs un peu, enfin, je sais pas, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la musique et j'ai commencé à faire ça assez rapidement parce que j'avais ce feat avec Nekfeu.
Évidemment.
Quand j'avais
Sur Cyborg, je sais pas quoi.
Et j'avais adoré faire ça. Et...
Récemment, t'avais entendu avec Youssef Swatz pour la haine. Enfin, je veux dire, dans ta carrière, mine de rien, c'est fréquent. On fait pas tous les jours, mais en tout cas, il y en a plusieurs. On sent que t'as aussi envie de ça, de collaborer avec des gens et que ça fait partie de ta manière, je pense, de penser la musique aussi.
Ah, mais totalement. Moi, j'ai toujours dit, la musique, c'est comme une bonne bouteille de vin, quoi. C'est encore meilleur quand c'est,
quand on la partage.
Partagé, quoi. Et j'ai vraiment toujours pensé mon métier comme ça. Et j'ai pas du tout, c'est marrant, d'égo, de, je sais pas, genre, par exemple, moi, j'adore co-composer avec des gens, ou, tu vois, j'ai pas ce truc de me dire, non, je veux tout faire de A à Z.
Oui, okay.
J'adore, au contraire, laisser entrer des gens dans le processus. Enfin, je sais pas, moi, j'adore être entourée, de toute façon.
Écoute, le morceau, en tout cas, que vous avez fait, il s'appelle Le Mur.
Ouais.
Je propose qu'on l'écoute tout de suite. Il est donc extrait de la compilation pour le GP Explorer.
C'était que mon frère. Dès que je t'ai vu, j'ai su que ça serait douloureux. La célébrité m'appelle, elle est jalouse. Elle est piquée, c'est mort. Et va me rendre fou. Entre le studio et la scène, je suis dans le palace. Loin de toi et de nous. Oui, j'ai une histoire d'amour. Des millions d'écoutes, j'ai même pas une minute pour toi. Dans ma fast life, je peux pas ralentir. Es-tu sûr que tu veux me suivre? Pour le meilleur et pour le pire.
J'aime le sabotage, tu es trop sage. Si tu ne veux rien risquer, tu me perds au passage. Le danger t'aime de meilleurs baisers que l'ennui.
C'était Clara Luciani, Yamé, Sofiane Pamart, le morceau s'appelle Le Mur.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Alors Clara, tu es avec nous pour plusieurs choses. L'album, bien sûr, la tournée, l'émission aussi. Donc Clara Co. Déjà ça, ce rôle d'animatrice. Alors on n'a pas encore écouté les émissions. Comment tu l'as pris? Comment tu l'as appréhendé? Est-ce qu'on est venu te voir? Est-ce que toi, tu avais très envie de faire ça depuis longtemps? Comment c'est arrivé?
C'est pas vraiment un rôle d'animatrice.
Oui, c'est pour ça que je dis. Comme on a pas écouté, je crois qu'il y a beaucoup de musique, en fait.
C'est
surtout.
Beaucoup de la musique, c'est beaucoup des duos. Et du coup, comme on vient de s'en parler, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Je crois que l'idée à la base, c'était de faire des reprises. Et très vite, je me suis dit, mais autant partager cette expérience avec des gens que j'aime et que j'admire, quoi.
À la base, c'était une expérience qu'on t'a proposée à toi toute seule. Tu
devais
reprendre
à la base,
choses,
c'était plutôt moi seule. Et puis, je me suis dit, mais en fait, ça serait beaucoup plus chouette avec des gens que j'aime. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça s'est transformé en cette série de duos plus improbables les uns que les autres.
Oui, comment tu choisis? Enfin, comment tu... Alors, bien sûr, j'imagine que tu demandes aux gens que tu connais, etc. Mais comment se fait la sélection? Parce que t'as pas non plus énormément de slots possibles. Mmh. Donc, tu choisis quand même des gens bien précis.
C'était dur de choisir. Hein. C'était dur de choisir. J'avais envie de choses évidentes et de choses moins évidentes. Ouais. Quand je dis évidentes, c'est j'avais envie d'aller vers des chanteuses quoi, que j'aime, avec qui j'avais jamais eu le plaisir de chanter.
Pomme,
on se croise depuis que... Enfin, moi, je connais Pomme depuis qu'elle a 18 ans. On se croise depuis bien 10 ans. Et en fait, on se parle, etc. Et en fait, on n'a jamais eu l'occasion quoi, de se poser, de chanter ensemble. Donc, merci France Inter, parce que c'est chose faite. Yoa, c'est un peu ma découverte de l'année. Genre, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup écoutée. Je la trouve hyper unique en son genre. J'adore comme elle écrit. Et je suis trop heureuse de chanter avec elle. Dans presque tous les cas, c'est les invités qui ont choisi les chansons.
D'accord, que
je
vous
reprenez. J'aimais bien cette idée-là. De me mettre un peu dans un truc d'inconfort. Ouais. C'est toujours des chansons que moi aussi j'aime. Hein. Ils m'ont toujours envoyé une liste et j'ai quand même dirigé le choix. Mais j'aime bien l'idée que... Enfin, je me suis dit, oh, c'est plus chic de les laisser un petit peu choisir. Ouais. Et puis j'aimais bien aussi l'idée de la surprise. Un peu comme ce qu'on vient de se raconter. Quoi. Aller dans des collaborations moins attendues.
Il y a quand même ça chez toi, j'ai l'impression que... Tu parlais du dernier album, Mon Sang, comme un risque, en tout cas, un acte de courage dans ta carrière. T'aimes bien l'inconfort, j'ai le sentiment. En tout cas, mais on a le sentiment quand même que la routine, ça te fait un peu peur, quoi.
C'est même pas ça, mais je trouve que c'est comme ça qu'on reste vif aussi. Ouais. Je me souviens, en histoire de l'art, on avait étudié une maison qui avait été pensée pour les personnes atteintes d'Alzheimer et d'autres dégénérescences cognitives, etc. Et en fait, c'était une maison où tout était légèrement inconfortable. Tu vois, le sol était légèrement dans un angle où il fallait en permanence un peu faire attention pour pas tomber. Tout était un petit peu trop bas, il fallait se baisser. Et je sais pas pourquoi je garde toujours en tête cette maison-là. Et je veux que ma vie soit un peu comme ça. Je veux que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme ça que je reste alerte et vive. Parce que je trouve que quand on est trop installé dans un espèce de confort... je sais pas, on se renouvelle plus, je sais pas, bref, c'est une métaphore très très bizarre ce que j'en ai dit.
Je la comprends parce que je pense que c'est un vrai sujet, surtout quand tu commences à rencontrer à des niveaux différents une forme de succès en fait. Non mais j'entends en fait le succès c'est génial, mais ça peut aussi être un peu intimidant et angoissant parce que tu dis bon bah maintenant en fait est-ce que je continue ce que je suis censé faire, est-ce que je sais faire, est-ce que je fais un peu valdingue et ça et du coup je me mets en situation d'inconfort.
Mais attends,
de challenge.
C'est pas non plus un truc de sabotage, hein. C'est pas dire ce succès il m'a encombré, je vais tout faire pour ne plus jamais avoir de succès dans ma vie. C'est pas ça, c'est juste me dire c'est pas parce que ça a marché qu'il faut que je m'enlise dedans et me dire que je vais le reproduire à l'infini. C'est l'idée de faire d'autres choses qui marchent en fait, tout simplement.
Et puis de rester en mouvement. En fait.
Et de rester en mouvement. Et pour moi ça passe par la curiosité, ça passe par être ouvert à d'autres formes d'art, à de la musique. Qui n'est pas forcément celle que moi je fais. Et donc voilà, j'ai trouvé ça génial de chanter cette chanson avec SCH. Année 2000, moi c'est vraiment. J'ai entendu cette chanson, j'ai pleuré.
Donc c'est une chanson d'SCH, son dernier album, qui est vraiment une chanson.
Qui s'appelle 2000 et c'est marrant parce que. Je sais pas, je nous ai appelé les Miss Paca. Je trouve ça trop drôle parce qu'on a presque exactement le même âge, on vient presque exactement du même endroit et du coup.
Tu viens de Martigues, hein, et Buvin d'Aubagne, enfin de Septèmes-les-Vallons.
Ouais, c'est ça. Okay. Donc en fait, c'est très proche.
C'est très proche, Buvin d'Aubagne.
Nord de Marseille, tout ça. Et donc on avait un peu les mêmes références dans cette chanson-là quand il parle de. enfin, je sais pas, il y a certaines images où vraiment j'ai revu ma propre adolescence, en fait. Et elle me touche beaucoup. Et donc, du coup, c'est le seul invité avec lequel je chante une chanson de son propre répertoire.
Ouais. Tu parlais de ça, ça passe parfois avec d'autres arts, mais je retiens les Miss Pac, hein, pour toi. Je trouve ça extraordinaire. J'ai un peu envie de voir un film, un truc, tu vois. Vraiment, que quelqu'un s'empare de cette idée. Mais en parlant de film, est-ce que ça passe aussi par ça, parce que t'as fait aussi du cinéma, est-ce que c'est quelque chose que t'as envie, c'était un one shot, c'est une carrière que t'as vraiment envie de développer à côté, c'est quoi ton rapport aujourd'hui au cinéma en tout cas que interprète?
Franchement, j'aimerais te dire que c'est que ça dépend de mes décisions, mais la vérité c'est que j'ai pas été appelée par
t'as les... pas croulé sous les...
Non, les scripts ne débordent pas de ma okay. boîte aux lettres alors qu'il est bizarrement. Non, mais j'adorerais. Je pense que je suis une grande actrice. Mais, mais en tout cas, j'ai adoré l'exercice justement parce que s'il me mettait dans une situation d'inconfort et j'ai trouvé ça trop bien. Et je crois que ça m'a aidé aussi à m'accepter un petit peu plus. Moi, je suis j'ai beaucoup de mal avec. J'ai un rapport à l'image un peu compliqué. J'ai beaucoup de mal.
Tu en as déjà parlé, notamment.
Les vidéos, tout ça.
C'est aussi dû à l'adolescence. C'est ce que tu as souvent raconté. Comme souvent, tout est dû à l'adolescence.
C'est vrai.
Ça
nous
a traumatisé cette période de notre vie. On est tous marqués par ça.
On devrait pouvoir juste, tu sais, passer, quoi.
Ouais.
Mais du coup, c'était génial parce qu'en fait, autant quand tu tournes une vidéo pour un clip et tout, enfin, moi, en tout cas, je suis hyper control freak et je suis là, genre, enlevez-moi ça, ça va pas du tout, j'aime pas, c'est pas mon bon profil et tout. Quand tu fais un film, t'as pas le choix. C'est le réel qui choisit tout et ça m'a fait du bien de pas être
de t'abandonner comme ça.
De m'abandonner complètement. Donc déjà rien que pour ça, c'était une expérience assez unique et très enrichissante. Et puis non, j'adorerais refaire des films. J'ai un rapport au cinéma qui est peut-être moins passionnel que mon rapport à la musique. Ouais, je pense que c'est un rapport moins passionnel. Ou même la peinture, il y a des endroits où la littérature, où je me sens vraiment passionnée. Le cinéma, je l'aime énormément, mais j'ai un rapport un peu étrange parce que je crois que j'ai des espèces de boulimie de certains réals et je peux regarder les mêmes films.
Qui par exemple?
Ben, moi, mon vrai problème dans la vie, c'est Jacques Demy.
Ouais.
J'ai vraiment, c'est une pathologie à ce niveau-là. Donc, je suis folle de Jacques Demy, mais la nouvelle vague en général. Et puis, je crois qu'il y a des réalisateurs aussi qui ont vraiment formé mon œil, quoi, et mon goût. Je pense à Sofia Coppola, Wes Anderson, où en fait, les codes couleurs, je me rends compte qu'ils ont vraiment imprégné ma rétine et qu'il y a des trucs que je fais chez moi dans la décoration ou dans ma façon de m'habiller, où en fait, je me rends compte que...
C'est lié à ça.
Ouais, c'est du plagiat de trucs que j'ai vus dans des scènes de leurs films. C'est marrant quand même, comme... Enfin, le cinéma a quand même aussi...
Un impact, bien sûr. Mais peut-être visuel, notamment esthétique, sur ce truc. Alors, évidemment, quand on pense à Clara Luciani, il y a des morceaux qui viennent en tête, et notamment un morceau qui s'appelle « La grenade ». Alors, immense tube, évidemment. Est-ce que, malgré tout ce qu'il représente notamment pour les gens, est-ce qu'on peut se lasser d'un morceau comme ça quand on en est l'interprète, l'autrice? Est-ce qu'il y a un moment où ça devient un poids ou c'est jamais le cas?
Moi, je peux pas me lasser cette chanson parce que, malheureusement, elle est encore nécessaire. En fait, la chance que j'ai, c'est que mon tube, entre guillemets, c'est une chanson qui me dépasse, qui dépasse mon petit nombril, quoi. Parce que moi, je suis quand même assez douée pour, par exemple, me faire larguer et écrire des chansons sur ça.
Ouais.
Si ça avait été... Si la grenade parlait de mon cœur brisé et mes petits problèmes, etc., je crois que oui, j'en serais lassée.
Après, là, même un morceau comme ça... Même un morceau qui parlerait de ça, ça parle aussi à beaucoup de monde, ça te dépasse aussi quelque part.
Ouais, mais pas autant. Je trouve que là, il y a quelque chose de tellement sociétal et important et qu'à chaque fois que je le chante, c'est peut-être bête, hein, mais j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est nécessaire. J'ai l'impression qu'elle est nécessaire et quand je vois les gens la chanter à l'unisson pendant les concerts, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, de presque politique, de. Et rien que pour ça, je ne peux pas...
Ouais, elle est chantée pendant les manifestations, enfin c'est une chanson qui... Oui, oui.
Du coup, pour ça, je crois que je ne pourrais pas. Peut-être que dans 40 ans, quand on refera la partie 2 de cette interview...
La partie 12 au moins. C'est-à-dire qu'on se sera vu au moins une dizaine de fois d'ici.
Je te dirais, j'en ai marre, on parle plus de cette grenade. Mais là, non, moi, non, au contraire, moi, elle me fait encore du bien. Et puis, je me rends compte aussi qu'il y a mille façons de la chanter et... Je la chante pas toujours, je me rends compte, je la chante pas toujours de la même façon. Il y a des soirs où elle est plus protestataire, il y a des soirs où elle est plus espiègle, quoi. Je me rends compte, même quand je vois les images, il y en a où je me marre, tu sais pas pourquoi, puis il y en a où j'ai l'air vraiment grave. Et c'est ça aussi qui est chouette avec les concerts, c'est que tu mets ce que tu veux dans l'interprétation.
Est-ce que c'est pas aussi ça la force d'un vrai tube? C'est-à-dire qu'un vrai tube, il peut raconter quelque chose, c'est-à-dire que c'est le cas de cette chanson, mais on peut aussi l'écouter sans toujours écouter les paroles parce que il est entraînant, en fait. Et c'est aussi peut-être ça la force des grandes chansons populaires, c'est quand on gratte un peu le vernis, bien sûr que ça raconte quelque chose, mais on peut aussi décider de l'écouter uniquement pour le rythme et pour ce que ça procure d'un point de vue très...
Je trouve ça trop bien d'ailleurs de pouvoir dissocier le propos de, encore une fois, l'habillage sonore. Et j'ai toujours essayé de faire ça. Moi, j'ai toujours essayé de me dire, c'est pas parce que c'est une chanson assez grave dans ce qu'elle raconte qu'il faut qu'il y ait un violon derrière qui pleure et puis un piano moribond, quoi. Et ça a toujours été un peu ça, moi, ma recette. Et je me rappelle, moi, quand on était en train de travailler à la grenade, je pensais tout le temps au petit train d'Erita Mitsuko ou à Abba, où il y a des chansons qui sont vraiment assez dures et entraînantes à la fois. Et j'aime bien cette idée-là, de dissocier le fond de la forme dans la musique.
Alors, on va écouter dans quelques minutes le morceau Tout pour moi, qui est un morceau extrait donc, de ton dernier album Mon sang. Est-ce que c'est un morceau qui a été compliqué à écrire?
Non. Mais moi, j'ai pas trop de morceaux qui... Les haters vont dire « ça s'entend ». Mais j'ai jamais de morceau compliqué à écrire. Non, franchement...
Il est venu parce que c'est un morceau où tu parles notamment de ton enfant.
Ouais. Mais tout vient assez vite. Et si ça vient pas vite, c'est que c'est pas bien, souvent. J'ai pu rester très longtemps sur une chanson à travailler, mais au final, elle finissait à la poubelle. Je crois que c'est toujours comme ça, des espèces de fulgurances. Ou alors, c'est nul.
Ok, ouais, ce qui arrive, non, mais c'est important de le dire, je pense que ça arrive aussi de se foirer.
Tu tentes des choses. Je pourrais sortir 4 best-of double disque de tous les trucs que vous n'entendrez jamais.
D'ailleurs, rien à voir avec ce que tu dis, mais je me suis fait une réflexion ce week-end, on sort plus de best-of. C'est le streaming a tué les best-of.
J'ai vu que Louane avait sorti un best-of qui avait hyper bien marché.
Ouais. Parce que j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, avec les playlists des indispensables sur les plateformes de streaming, ça a tué. Parce que chez moi, ma mère achetait des best-of, tu vois, de Stevie Wonder. Et d'ailleurs, souvent, j'avais pas les albums, mais j'avais les best-of. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que les playlists ont tué le best-of.
Et en même temps, l'objet, quand t'es vraiment fan de quelqu'un, il peut sortir n'importe quoi.
Moi,
je suis hyper collectionneuse, je sais que j'achète.
Il y a un artiste, un ou une artiste comme ça avec qui tu achètes tout?
Ah, Paul McCartney.
C'est Paul McCartney.
Oui.
Il pourrait sortir un 8e best-of de morceaux que tu as déjà, évidemment.
Bien sûr, parfois il poste des trucs sur son Instagram, il sort des sombres, réédit son truc, et parfois je commente, je dis mais prends mon argent. Parce que je commente absolument tout ce qu'il poste.
Ok, très bien. Ça a encore ce rapport-là passionnel avec lui.
Complètement à sens unique, mais c'est ça qui est beau dans notre histoire.
Ah, est-ce que t'aimerais le rencontrer ou pas? En vrai.
Alors.
Parce que moi, je sais pas s'il faut rencontrer ces idoles.
Je suis d'accord avec toi, je sais pas s'il faut. En fait, je les ai un peu toutes rencontrées.
Ouais.
À part Michel Legrand. Et alors, Paul McCartney, c'est un peu la dernière figure comme ça que j'ai pas rencontrée. Mais je me dis, est-ce que ça tuerait pas quelque chose?
Bah ouais. Peut-être pas, je sais pas. Hein. Peut-être que c'est génial. Mais c'est un risque. Ouais. Moi, je crois que j'ai pas envie de rencontrer Zizou.
Ah, eh ben, c'est dommage parce que il est là. Zizou.
Tu l'as rencontré, toi?
Zizou?
Ouais.
Non.
Bon.
Pourtant. On vient de la même ville.
Exactement. C'est pour ça que
les Vallons représentent.
Vous auriez pu vous croiser à un moment. Je propose qu'on écoute en tout cas le morceau Tout pour moi, donc Clara Luciani, extrait de son dernier album en date, Mon sang.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra. Un livre ou un opéra. Mais t'es tout pour moi. collier de l'univers. T'es infini mon petit, infini mon petit. Mais un amour pareil mon chéri, ça s'observe depuis la stratosphère. C'est une fois par millénaire, c'est une fois par millénaire.
Clara Luciani, le morceau s'appelle « Tout pour moi », il est extrait de son dernier album « Mon sang ».
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et Clara est avec nous car il y a une tournée, évidemment, qui continue. Bruxelles, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille et Accor Arena les 18 et 19 février prochains. Comment tu te sens avant ces dernières dates? Mal du coup, parce que tu nous as dit que tu n'aimais pas ne rien faire, donc j'imagine que tu...
Mais oui, j'aime pas les fins, j'aime pas les au revoir.
Tu peux pas être en tournée tout le temps?
Ça serait mon rêve, en même temps je serais fatiguée, et puis peut-être aussi je ferais... Enfin, voilà.
Oui, ça aura moins
ça
de saveur.
Pas la même, ouais, la même saveur. Mais ouais, ça va me faire quelque chose. Ouais.
Bon, je te propose en tout cas de faire une petite tour d'horizon d'actualité de quelques nouveautés musicales. Mm-hmm. Je voulais en parler aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas que des albums cette semaine, car il y a aussi des événements, et notamment Alonso, qui vient d'annoncer une nouvelle date au Stade Vélodrome, le 6 juin 2026. Le Vélodrome, donc, c'est pas une salle, c'est un mythe. Alors évidemment, toi, tu viens du Sud, j'imagine que t'es déjà allé au Vélodrome.
Oui, j'ai jamais joué malheureusement.
Pas encore, faut pas croire. En fait. Ah, j'irai adieu à ses rêves. Et donc... Alonso avait déjà joué en juin dernier, et là il y revient, et y revenir c'est clairement une déclaration.
Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Kassim finilé. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit finilé. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie finilé. Même mes enfants innocents me disent papa finilé. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà, je sais pas.
Alors, Alonso, c'est l'un des visages les plus constants du rap français depuis plus de 20 ans. Originaire donc de Marseille, membre des Psychiatres de la Rime, pilier qui a traversé les époques sans jamais perdre le lien avec la rue, avec la ville. Et donc, ce Vélodrome 2026, c'est plus qu'un concert, c'est un hommage à sa longévité et un rappel de sa place dans l'histoire du rap. On parle souvent de Jul, de Soprano, d'SCH quand on parle de Marseille, mais Alonso reste la racine, un des socles importants du rap marseillais, un artiste qui prouve en 2025 que le rap peut encore se permettre les gestes symboliques les plus grands, et ça ouvre une question simple: qui sera le prochain à oser un Vélodrome? La question se pose. Et pourquoi Alonso, lui, continue d'y revenir? La réponse est dans son rapport aux gens, un rapport fait de fidélité, de vérité et d'un refus absolu de se déconnecter.
On a bu 12 packs, roue avant sur le nez, cagoule noire sur le nez, Mzingaland, tu connais, Tienjawid, soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le zin se marie, cheval cabré sur le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la Courneuve à 200, on sourit au flash. Permis bien des commos, comme d'hab, j'm'en tape. Bang et meuf, tank et voilà, comme d'hab. On achète pas les airs avec de sous-table. On encule pas les airs au cul où on se tape.
Quel morceau? Ça a 10 ans cette année, ce morceau. La belle vie. Est-ce que t'as envie de jouer dans un stade ou pas? Est-ce que t'aimerais bien?
Parce qu'il y a, c'est comme tu me dis, est-ce que j'aimerais jouer dans un film? Oui.
Non, mais il y a un peu un débat. Il y a des gens, notamment, je me souviens, Aya va faire 3 sets de France, donc maintenant je crois qu'elle est un peu revenue de ça, mais je me souviens qu'à l'époque, quand elle avait annoncé des Bercy, qu'elle avait évidemment rempli, il y avait aussi ce truc-là de, ah, mais t'aurais pu faire un set de France. Elle avait dit, mais je sais pas si c'est le bon lieu pour performer. Ah. Bon, finalement, elle le fait. Est-ce que c'est idéal, un stade, pour performer?
Déjà, bravo à Aya, parce que ça fait trop plaisir de voir des femmes remplir des... Voilà, bravo. Est-ce que moi, si j'avais la possibilité, je le ferais? Oui, parce que déjà, je suis curieuse et que je trouve ça trop bien. Mais je pourrais aussi totalement rejouer dans des clubs de 200 personnes, quoi.
Ça, ce serait bien.
Je trouve ça trop bien. En fait, j'aime tout. Tout et j'aime le côté ok, t'arrives sur scène et tu t'adaptes en fonction de ce que t'as en face c'est-à-dire soit un truc hyper intime, soit et je trouve ça trop intéressant dans notre métier de s'adapter. Et même d'ailleurs, moi, même si j'ai fait que des zéniths sur cette tournée, ben dans un zénith à l'autre c'est pas pareil, ça dépend comment les gens ils se sentent, quel jour de la semaine on est. Et en fait, très vite au premier morceau tu jauges à peu près, t'arrives à comprendre à peu près qui tu as en face de toi, et le spectacle est pas le même. Et c'est parfois, il faut que j'aille un petit peu plus les chercher, parfois je fais 2-3 blagues, parfois au contraire je sens qu'ils ont pas du tout envie de rire ce soir là et je deviens beaucoup plus grave, et je trouve ça trop chouette. Et là, l'idée de me dire, un stade, ça doit être fou, quoi. Comment est-ce qu'on adapte la gestuelle à ça, le parler? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens sentent quand même une espèce de d'intimité, de proximité? Enfin, je trouve ça trop intéressant.
Très bien. Bah écoute, je te le souhaite.
Bah ouais, moi aussi.
Je te le souhaite. Alors, on change d'échelle, mais pas d'intensité. Isha et Limsa Dolnay reviennent avec Bitume Caviar, volume 2.
Moi aussi, je fais partie de ce continent. Ils m'ont fait une propale, j'étais déçu des hommes. J'ai quitté la maison, je suis en Inde. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu des ordres. Je suis mon propre patron. Chaque mois, je verse mon salaire et le fixe. Quand je suis en vacances, chaque story peut alerter le fisc.
Un projet qui confirme ce que beaucoup pensaient déjà. Ils sont aujourd'hui parmi les meilleurs storytellers qu'on a dans le rap francophone.
Toute une existence à combattre ces démons. Des fois je me dis que ce serait chant mais qui gagne. La lumière et l'ombre, la vie et la mort. J'arrive pas à changer mon champ lexical. Mec du ghetto, le tic a endeuillé. On n'a jamais vu nos darons pleurer. Elles ouvraient leur courrier, l'air de rien. On n'a jamais vu nos mères se plaindre.
Alors dans l'album, il n'y a pas de tube, il n'y a pas de trend TikTok, il n'y a pas de storytelling forcé. Ils écrivent juste, ils écrivent vrai. Dans un paysage où tout va vite, où le streaming impose des formats, eux rappellent que le rap peut encore être un endroit où on prend le temps de parler. Grosse mention aux productions très soignées, assurées notamment par les Belges Jean Jass, qui est également un rappeur à succès, et D.I., un disque qui parle doucement mais qui touche fort du rap comme on aime.
Fut la vie qu'on mène, je sais qu'on n'est pas béni, je reste dans le déni, mon frère. C'est dans la nuit, c'est qu'on dit, non peine. J'fais que charbonner, rien que la vie me teste authentique comme elle. La vie qu'on met, j'compte mes pas, plus les talons, les gars, on dort mal. Plus la vie qu'on met, j'compte mes pas, plus les talons, on dort mal.
Ça, c'est un extrait de leur morceau avec Yamé, La vie qu'on mène. Il est partout, Yamé, hein.
Ben, je voudrais le voir encore plus partout, parce que franchement, je le trouve extraordinaire. C'est un alien, en fait.
Ah ouais, c'est-à-dire que tu sens qu'il est capable de faire des choses très différentes. Il y a un côté un peu ovni, ressemble à rien d'autre de ce que tu as entendu avant.
Rien d'autre.
Ouais.
J'aime trop quand il y a des gens comme ça qui arrivent dans le paysage en France. En vrai, je crois que j'ai ressenti ça aussi quand Zao elle a commencé à sortir.
Zao de Sagazin.
A sorti des sons. Je trouve ça fait tellement du bien, c'est tellement stimulant d'avoir comme ça des... Je sais pas, des profils comme ça, hyper atypiques, et en plus, je suis fan de l'homme aussi, donc voilà, ceci est une déclaration d'amour.
J'ai l'impression que t'as pas de souci aussi à donner les noms de gens que t'aimes bien. Parfois, il peut y avoir un peu, soit de pudeur, soit tu sais, on se retient un petit peu, on n'ose pas dire en
non,
public.
C'est plus dur de dire les gens qu'on aime pas quand même, non?
Ah bah, tu vas devoir me faire un top 3. Je vais avoir un top 3 des gens que tu détestes dans l'industrie. Par pitié, c'est la séquence. Non, mais tu sais, même parfois, il peut y avoir un peu de fierté ou de se dire, est-ce que c'est assez cool de dire qu'en fait, que j'aime bien, mais je te sens très libre en fait avec
moi,
ça, toi.
Moi, je suis, et puis surtout, je sais pas si c'est mon signe astrologique ou si c'est une prédisposition à l'amour, mais c'est vrai que je fais très facilement des coupements, et je dis tout le temps aux gens que je les aime, quoi, avec beaucoup, beaucoup de facilité, peut-être trop.
Et maintenant, j'aimerais faire un petit jeu, mais tu vas voir.
Ah, j'adore les jeux.
Bah, c'est un jeu
mais
très simple.
Mais que quand je gagne. Ça, par contre, je suis horrible.
Alors, tu vas gagner, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas d'enjeu. Okay. C'est un peu la BO de ta vie. Je te pose des questions, tu me dis quels morceaux correspondent à cette situation. Et la première question est la suivante. La première chanson dont tu te souviens vraiment, quand tu étais petite, qu'est-ce qui tournait à la maison? Est-ce que c'était déjà les Beatles?
Mon premier souvenir, c'est les Cactus de Jacques Dutronc. Ah. Et apparemment, c'est la première chanson que j'ai chantée. Parce que, tu sais, il y a ce refrain hyper catchy pour un enfant de...
Oui, tout à fait, bien sûr.
Donc je courais dans
le sens que ça tournait beaucoup à la radio, ça, en fait. C'est une chanson qu'on entendait.
Ah ouais, même dans les années 90, tu crois, je sais pas.
Moi, je me souviens en tout cas que j'entendais comme ça à la radio.
Alors ça devait passer à la radio, je sais pas, mais mes parents m'ont toujours dit que j'étais obsessionnelle de cette chanson et que je la chantais tout le temps.
Une chanson qui te rappelle le Sud?
Le Sud.
Tout simplement.
Je dirais le Sud, ouais, bien sûr.
Tu l'as beaucoup... Est-ce que tu l'as... C'est une chanson que tu as beaucoup écoutée aussi?
Je l'ai pas mal écoutée, mais surtout je la trouve très très bien écrite et je trouve la mélodie très belle.
Est-ce que tu écoutes de la musique et si oui, quoi, avant de monter sur scène?
Alors oui, mais j'écoute des trucs que j'écouterais pas forcément. Enfin, c'est marrant, mais... Par exemple, j'écoute énormément de Beyoncé avant de monter sur scène.
Ok.
Et c'est pas forcément l'artiste que j'ai le plus envie d'écouter, par contre, quand je rentre de tournée, que je me pose sur mon canapé. Enfin, tu vois, tout est...
Tout est adapté. Elle est pas forcément dans ton quotidien,
non.
Mais elle est dans ta vie de
performeuse.
Elle est dans ma vie
de tournée très très fort.
Est-ce que c'est parce que c'est la performeuse ultime et qu'il y a un truc...
Moi, je sais pas, elle me fait rêver. Mais vraiment, cette vidéo de Beyoncé qui a ses cheveux accrochés dans un ventilateur et qui continue de chanter, pour moi, c'est une métaphore de ce que je veux être dans la vie. Moi, je veux continuer à chanter avec mes cheveux coincés dans un ventilateur. C'est comme ça que j'ai envie de vivre. Et je la trouve sur scène, elle est, c'est pas possible, elle est pas humaine.
Est-ce que t'as des chansons en particulier de Beyoncé qui te...
Alors ma préf de préf avant de monter sur scène, c'est Love on Top.
Ah, merci, j'adore.
Le moment
cette
où
chanson.
Ça module à la fin là, c'est... Pop.
Je sais qu'il y a un peu un débat parce que...
Comment ça?
En fait, la manière dont elle chante, c'est vrai que quelqu'un m'avait vendu, qu'elle abusait, qu'elle chantait, je sais pas, moi j'adore cette chanson.
On veut des noms, on va aller les voir.
C'est quelqu'un qui travaille pas ici. Mais mais j'adore, j'adore ce morceau Love on Top aussi, vraiment, incroyable.
Et Why Don't You Love Me aussi.
Alors je l'ai pas celle-là en tête.
Ah ouais?
Ouais.
Why don't you love me?
Bah c'est superbe. C'est mieux que Beyoncé en fait ce que tu fais.
Ah ouais. On me le dit souvent. Ouais.
Non mais ouais. Donc, non, mais c'est,
en il y en a une qui remplit des stades et l'autre pas encore.
Pas encore. Parce que elle, tu vois, elle fait bon bref. Mais ce que je veux dire c'est que ce qui est intéressant en tout cas c'est que tu compartimentes presque les gens que t'écoutes. Il y a des gens que t'écoutes pour la scène, que t'écoutes pour peut-être le cocooner à la maison. Il y a vraiment des trucs très différents.
Mais c'est forcément en même temps, quoi. Il y a des trucs pour être dans la voiture, il y a des trucs pour aller se coucher, il y a des trucs pour se doucher, il y a des trucs pour... Ça te fait pas ça, toi? T'écoutes toujours les mêmes trucs dans n'importe quelle circonstance?
J'écoute toujours Jay-Z, mais moi, j'écoute toujours la même... Tu vois, le mari, moi.
Voilà, c'est ça.
J'écoute l'autre. Une chanson qui représente pour toi peut-être la maternité. Qu'est-ce que tu écoutais quand t'étais...
Il y avait cet album des Lemon Twigs qui était sorti. Comment il s'appelle? Je peux regarder ou pas?
Ouais, tu peux regarder, bien sûr.
Pourtant, j'ai fait que ça, j'ai écouté que ça. Mais comme je te disais, je suis assez obsessionnelle. Et du coup, vraiment, je pense que mon enfant est né, il connaissait par cœur...
Est-ce que t'as l'impression qu'il... Il se souvient de ça ou pas du tout?
Non, je
crois pas. Ça, c'est un mensonge, ça, de dire qu'on fait...
C'est possible, ça?
Moi, je crois pas. Mais je crois qu'à un moment, il y avait un peu ce truc-là, dont on fait écouter de la musique.
Everything Harmony, album de 2023. Et donc, mon enfant est né en septembre 2023.
Donc, c'est ça que tu écoutais beaucoup
à fond, tous les jours.
Très bien. Et je te propose qu'on écoute un morceau que moi, j'écoute tous les jours en ce moment, quand je n'écoute pas de Jay-Z. C'est un rappeur suisse qui s'appelle Makala. Le morceau s'appelle Hotel Yotsuya. Ça annonce, je crois, un album. Et je me tue à ce morceau.
Ah mais trop bien.
Et donc je le joue une nouvelle fois aujourd'hui. Voilà, tu me diras ce que t'en penses. Makala, Hotel Yotsuya.
Je suis revenu pour les Toti, Anna. Mais je suis prêt pour la bagarre, Anma. Je suis fidèle à la squadra, Toti. Jamais je peux oublier d'où je viens. Donc j'espère que ça m'écoute dans l'allée. 300 pompes avant d'aller, en aller. Elle me dit que je devrais plus compter sur elle. Je pose mes billets de son coup si ça s'annuque. Salut, viens nous voir, on est posé dans le noir. Slimka, tire une light. Suis l'odeur ou la light, tu plains. Parle en bref, gros, fais-nous pas un grunt. On l'a, on l'étale. L'étale, même avec l'étale. Parce que c'est par plaisir qu'on l'étale. Wow, je me lève. Quoi, je rêve. Comment ça des factures dans ma boîte aux lettres? Ce qui augmente le tourisme à Genève. À chaque statue, je mérite une statue. J'espère que c'est clair, bitch. Bientôt, je fais un feat avec toi. Ta carrière explose, je me réveille, fiche S. Je sais pas si on a des vies antérieures, mais je sais que je suis une merde, donc une entre elles. Ok, sans aucune gangster. quelques grammes, tu nous en fais des tonnes. Tu t'es pris pour un Tony, des Tony. Nous on te prend pour un Tommy, des Tommy. Un bouffon qui sait manger des puffins atomiques. Personne t'écoute, ça t'étonne. Y'a des refs qui veulent quitter le rinté, mais le rinté est long comme dans Olivier Tom. Le monde est drivé par la folie des hommes. J'ai été élevé par la plus forte des femmes. Un seul de ses regards peut désarmer désormais. Tu comprends d'où je viens désormais. Je suis là pour régner des années et des années. Regarde en face et des âmes. Je vais remplir des bagues, faut garder vos bagues. Ma me drague. En plus c'est des femmes mariées qui me draguent. C'est quoi ça, je suis qui moi, le seigneur des anneaux. Non, mon karma, je dois penser à mon karma. J'ai déjà mon quota de rage qui regarde mal. Si tu trouves pas une raison de vivre, cherche pas une raison de me casser les couilles, putain. Tu m'as vu sur scène, je les fume, tu sais. Ceux qui s'aiment récoltent, je suis mon propre pote. Les venons pop comme boue, mais comme boue le dit. Tu dis que tu kiffes la vérité. M'oblige pas à vérifier pour voir si t'es apte à parler quand. Si t'es pas là jusqu'à l'année, si tu veux mon sang, je te laisse sucer. Et il coule à flot, tu risques de glisser. Aujourd'hui, le vide est très bien habillé, mais sans les caméras, il galère à briller. Alors que si le message est clair, le message est clair, les cœurs, mais y'a du chemin. Bande de slaves, personne va vous save. Cause de vous, les types restent type. Faut le dire, bien fort, fausse hype, fausse trip. Cause de kick, le rap français est proche de la police comme Sting. Slim, tire une là. Ils veulent pas cette smoke, ok. Y'a beaucoup de médias qui sont bons. Vont gagner fort, mais le rap. Ils leur jettent des fleurs quand ils sont up. Mais quand les frérots perdent leur hype, tout d'un coup, ils nous parlent d'originalité. Le mainstream porte toujours le même string.
Incroyable, Makala, Hotel Yutsuya. J'adore ce morceau.
Ouais, la dernière phrase est puissante, hein.
Le mainstream porte toujours le même string.
J'adore.
Moi aussi.
Voilà. C'est hyper important de soigner sa sortie. Et ça... là, franchement, c'est... je sais que je m'en souviens longtemps.
Bon, très bien. Makala, donc c'était le morceau Hotel Yutsuya.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Donc c'était ma modeste recommandation à toi, Claire Rochini. Makala, vu que tu ne connaissais pas. Mm. Et c'est une transition parfaite, car tu as fait des recommandations.
Ah, je me rappelle plus ce que je t'ai dit. Hein.
Eh ben, moi je m'en souviens, j'ai tout noté. Okay, on a même préparé des choses.
Je suis complètement amnésique.
Eh ben, c'est terrible parce que je les ai reçus il y a vraiment pas longtemps.
Je sais. Mais...
Eh ben, t'as conseillé une artiste. J'avais oublié. Enfin, j'avais presque un peu oublié son existence.
Lily Allen.
Lily Allen, exactement, qui était une artiste que, évidemment, que j'écoutais comme beaucoup de gens, notamment à la fin des années 2000, début 2010, qui était super importante et qui en fait a sorti un album il y a pas longtemps avec notamment ce morceau West End Girl. Lily Allen, donc, alors, ça m'a vraiment fait plaisir, premier degré, de la réécouter, parce qu'elle a toujours eu un coup de truc très cool, je trouve, même dans ce qu'elle faisait, mais c'est vrai que je suis passé un peu à côté.
Ouais.
Pourquoi donc Lily Allen, pourquoi ce dernier album?
Je suis obsessed, je suis trop contente d'en parler, parce que vraiment, je suis obsédée par ce disque.
Mais qu'on lui donne une émission de radio, enfin... Voilà, t'as envie de faire ça, tu veux, ça crève les yeux.
Mais non, mais je le trouve brillant. J'ai osé dire tout à l'heure que mon dernier disque était impudique et exhibitionniste, mais là, elle a atteint un niveau qui est lunaire. Et en même temps, c'est quand même très agréable d'avoir l'impression de regarder à travers un petit trou de serrure l'intimité de quelqu'un. Ouais. Et puis elle l'écrit tellement bien que je sais pas, moi ça m'a fait frissonner vraiment de plaisir. Et puis je trouve ça aussi tellement agréable de voir une femme connaître comme ça une deuxième heure de gloire, parce que tu l'as dit, c'est vrai, on l'avait oublié pendant assez longtemps, cette femme. Et là elle arrive dans sa quarantaine à un moment où, il faut le dire, les femmes sont quand même un petit peu invisibilisées dans leur carrière, et cette meuf arrive plus belle que jamais, hyper forte après un divorce qui aurait dû a priori la massacrer complètement, et plus forte que jamais, et elle a jamais aussi bien écrit. Moi je trouve qu'il y a plein de punchlines qui sont super forte dans ce disque là et je sais pas, enfin vraiment je l'adore, je l'écoute du début à la fin. Ce que j'aime aussi, c'est le courage qu'elle a eu de faire un truc assez narratif. Par exemple, il y a cette chanson qui s'appelle Madeline, qui est un personnage qui arrive, je crois, au milieu du disque. Et en fait, si t'écoutes bien la chanson d'avant, elle dit, genre, elle commence à l'évoquer en disant, mais who the fuck is Madeline? Et j'aime bien l'idée d'un fil conducteur. Je trouve ça très audacieux de faire un album narratif dans un moment où en fait l'album en lui-même est en train de disparaître. Il y a très peu de gens qui écoutent un album du début à la fin comme moi, qui suis complètement
en train. Oh ouais, on est ensemble, mais je crois qu'on est de plus en plus rares.
Tu vois?
Ouais.
Et du coup, c'est trop chouette qu'elle ait osé faire ça, qu'elle nie complètement le fait que les gens auront probablement pas la patience d'écouter tout du début à la fin. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui me plaisent. L'imagerie est trop belle, un peu à la Lana Del Rey, une espèce de vintage. Dream est réinterprété, dépoussiéré. Enfin, j'aime tout, mais je le trouve brillant, ce disque. Pardon, je suis, on dirait, une
illuminée. Ah non, mais
illuminée,
c'est parfait. Mais justement, tu as mentionné le fait que c'était une femme de 40 ans qui, justement, peut-être trouver une forme de nouvelle jeunesse. Et on sort quand même d'une année aussi, j'en parle avec une journaliste il y a quelques heures, sur le fait que je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont été très importantes dans la musique cette année. Évidemment, en France, le nom de Théodora est un petit peu inévitable.
Rosalia.
J'allais dire Rosalia, évidemment, à l'étranger. Et même dans un autre registre, une femme comme Okelou, qui aussi fut une année extrêmement intéressante. L'idée, c'est pas dire que c'est l'année des femmes, parce que c'est un peu des raccourcis. Oui. Et l'idée, c'est qu'il y ait des femmes tout le temps, en fait, qu'il y ait des femmes qui ont des succès tout le temps. Mais est-ce que tu sens quand même qu'il y a une période peut-être un peu plus prolifique, je sais pas, mais en tout cas où il y a peut-être plus de place pour que des femmes prennent la parole, notamment dans le milieu de la musique, peut-être que
ce
soit plus simple.
Oui, c'est ça. Je crois pas que ce soit forcément les femmes ont été particulièrement brillantes cette année.
Non,
je pense que c'est juste on les a plus écoutées, on leur a plus tendu le micro, et ça, je peux que me réjouir de ça.
Mais t'as l'impression qu'il y a un moment aussi
Oui, on va vers le mieux. On va vers le mieux. Moi, il y a quelque chose en tout cas qui me réjouit aussi, c'est de voir cette nouvelle génération. Bon, je parle en France parce que j'ai pas trop de regard, en tout cas, de l'intérieur dans les autres pays. Mais moi, je trouve ça hyper rafraîchissant de voir comme la nouvelle génération de chanteuses féminines s'entraide et qu'il y a un vrai truc de connexion entre elles, et le duo Solène-Yoa, par exemple, je le trouve hyper inspirant, hyper fort, et j'ai l'impression que même si on n'a pas non plus 30 ans d'écart, il y a eu un vrai switch, un vrai changement. Là où moi, je trouve qu'avec les chanteuses de ma génération, on nous a beaucoup mis en rivalité, en disant c'est l'une ou l'autre.
Ouais.
Là où, je sais pas, je les trouve beaucoup plus sereines aussi, et je me réjouis de ça, et je m'en inspire. Et elles me font beaucoup de bien.
Clara?
Ouais. C'est fini?
L'heure.
Ah mince!
Presque.
Ah bon, parce que moi...
C'est l'heure de la question.
Je suis très bavarde.
C'est la question. Tu sais, déjà, je tiens à te rassurer, pour des gens qui font des interviews, des invités bavardes comme toi, c'est du pain béni. Ça me fait moins de travail. Donc je te mets à l'aise, vraiment. Depuis tout à l'heure, je te sens un peu... Vraiment, c'est... Continue. Sache que pour nous, c'est parfait.
Voilà. Mais l'épisode de Lily Allen, j'ai fait ma chronique. Hein.
Un jour, on fait une émission sur Lily Allen. On t'invite, si tu veux, avec grand plaisir. Premier degré. Hein. Non, la question, c'est la suivante. Tu es jeune.
Oh.
Mais si.
Ah oui, je vais vraiment revenir alors.
Tu as plusieurs victoires de la musique déjà. Une statue au musée Grévin.
Oh là là.
Oui, elle existe. Ouais. Des tournées à succès. C'est quoi ton rêve un peu impossible aujourd'hui? Une fois qu'on a coché ces cases-là...
Je crois que le plus dur et le plus... Enfin, moi, ce qui me rendrait tellement heureuse, je demande absolument rien de plus. En revanche, mon rêve, ce serait que ça dure. Et ça, c'est compliqué, je trouve, tu sais que je me rappelle même pas en quelle année on est, 2025.
C'est terrible. Plus pour longtemps, mais on est en 2025, ouais.
mais je trouve ça de plus en plus compliqué de durer.
Ouais.
Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite par-dessus tout. Par contre, j'ai pas du tout de gloire de carrière internationale, beaucoup plus d'albums, mais juste continuer mon petit bonhomme de chemin à mon niveau et. Parce que j'adore ce que j'ai, je veux juste pas le perdre.
Parce que ça fait peur aussi quand on est artiste, parce que même si on a du succès, qu'on gagne bien sa vie, etc., il y a quand même une forme d'incertitude permanente, en fait. Donc ça peut faire un peu peur, ça.
Oui, surtout quand tu deviens parent, parce qu'avant je me disais, ça sera la débrouille, c'est pas grave. Mais pour mon enfant, je sais pas, j'aimerais bien qu'il soit fier de moi, j'allais dire. Mais bon, même si demain je fais plus de musique, je trouverais Je trouverais d'autres trucs.
Bon. Clara, c'était un plaisir de t'avoir, vraiment. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à toi, donc. La tournée continue avec Bercy 18 et 19 février.
J'espère que tu viendras, d'ailleurs.
Si je suis invité, si j'en achète une, sinon...
Totalement invité.
Super, merci, ça m'arrange, c'est un peu la galère. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission qui a été préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, une émission réalisée par Guillaume Giraud. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'était Gaspard Guy Bourget et Jules Benveniste. Merci aux équipes web et vidéo. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission.
Merci.
France Inter, à la régulière.